Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Des dizaines de blessés, une main arrachée, retour sur une intervention musclée des forces de l'ordre. C'était au mois de juin à Redon, en pleine free party. Ce matin, Amnesty International dénonce une opération emblématique des dérives du maintien de l'ordre. Et c'est la question du jour, la sécurité par ceux qui la font et pour les citoyens. Clôture du Beauvau de la sécurité tout à l'heure avec des annonces substantielles à la clé, signée Emmanuel Macron. Génération des enchantée quand la jeunesse de France fait sécession. Voilà pour le programme du grand entretien, Nicolas.
Oui, avec le directeur général de l'IFOP, Frédéric Dabi, qui publie La Fracture. Donc, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs. C'est aux éditions Les Arènes, en librairie après-demain. Intervenez au 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, tous vaccinés ou presque, mais l'obligation fait toujours débat dans les hôpitaux. Emprunter mais pas trop, plus au-delà de 35% d'endettement, les prêts immobiliers bientôt plus contrôlés. Ami, la petite voiture électrique de Citroën, elle a trouvé son public. Et Dune, nouvelle adaptation au cinéma très réussie, nous dira Corinne Pellissier.
France Inter.
La date n'a sans doute pas été choisie au hasard. Amnesty International qui sort un rapport sur l'intervention des forces de l'ordre à la free party de Redon en juin dernier, le jour de la clôture du Beauvau de la sécurité et des annonces d'Emmanuel Macron pour une police plus efficace et pour renouer le lien entre les Français et ceux qui ont pour mission de les protéger. Or voilà justement un cas d'école. Selon Amnesty, la dispersion nocturne de centaines de fêtards par des gendarmes en Ille-et-Vilaine. Emblème, bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour
Mathilde Dehimi, emblème, dit Amnesty, des dérives du maintien de l'ordre.
Oui, au cœur de ce mois de juin, des centaines de personnes participent au Technival de Redon, fête non autorisée en pleine restriction sanitaire. Amnesty International a interrogé une douzaine de participants, associations et journalistes et exploité les vidéos de cette nuit d'intervention des forces de l'ordre qui ont tenté de disperser la foule à coups de grenades, de désencerclement lacrymogène et assourdissante. On compte des dizaines de blessés côté forces de l'ordre et surtout participants, dont un jeune fêtard à la main arrachée. L'ONG estime que la force a été utilisée en premier recours, sans médiation, avec des sommations inaudibles et sans plan de secours pour les blessés. Un usage de la force ni nécessaire ni proportionné. Et Redon n'est pas un cas isolé, avance Anne-Sophie Saint-Père d'Amnesty International ce matin sur France Info.
On interroge par rapport à ce cas d'école sur des stratégies de maintien de l'ordre sur lesquelles on alerte depuis des années. Et en fait, la force a été utilisée en premier recours et a créé une situation d'escalade des tensions et d'escalade des violences qui est exactement l'inverse de ce que devraient faire les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs polices en Europe qui réfléchissent à des stratégies de dialogue et de désescalade pour justement faire baisser les tensions, faire baisser les cas de recours à la force et éviter les violations des droits humains comme on les a constatés à Redon.
Au lendemain de cette nuit d'intervention, les forces de l'ordre avaient détruit le matériel de sonorisation. Amnesty International demande la création d'un organe indépendant pour traiter les plaintes déposées contre les forces de l'ordre.
Un contrôle indépendant de l'action des forces de l'ordre. Merci Mathilde Dehimi. Ça fera partie des annonces d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, c'est le rôle exclusif de l'IGPN, la police des polices, parfois accusée de manquer d'indépendance dans les dossiers de violences policières. L'Élysée promet des annonces substantielles, notamment sur la formation et l'encadrement des forces de l'ordre. Il en a été beaucoup question lors des manifestations des Gilets jaunes. Et c'est une des attentes des policiers sur le terrain, le nez dans le guidon depuis trop longtemps, selon David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
Il y a une police qui a toujours répondu présente à une demande de sécurité toujours plus pressante et on n'a finalement jamais pris le temps de respirer et d'anticiper l'avenir parce qu'elle a toujours été réactive et qu'elle a fait ce qu'on lui demandait. Mais le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'exemple type des choses qui n'avaient pas été préparées, on manquait d'entraînement et finalement les reproches qu'on nous fait, c'est ceux qui sont la conséquence d'une administration à qui on n'a pas laissé le temps de respirer alors qu'on sait quelles sont les menaces. Donc prenons les leçons du passé et donnons-nous les moyens d'éviter tous ces reproches-là et de professionnaliser nos effectifs.
David Lebars du syndicat des commissaires de la police nationale avec Emmanuel Leclerc. Et c'est un ministre de l'Intérieur soulagé qui assistera au discours du président tout à l'heure à l'école de police de Roubaix, Gérald Darmanin, sans doute bientôt blanchi de l'accusation de viol qui le poursuit depuis 4 ans. Les faits remontent à 2009. La plaignante accuse l'ancien jeune cadre de l'UMP de lui avoir imposé une relation sexuelle en échange de son intervention pour tenter d'effacer une condamnation de son casier judiciaire. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Florence.
L'enquête est terminée et s'oriente vers un non-lieu. La justice n'a pas établi les faits.
Oui, depuis 4 ans, pas moins de 7 magistrats ont examiné ce dossier lancé à l'arrivée de Gérald Darmanin au gouvernement Philippe, ministre des Comptes Publics. S'il n'a jamais nié la relation sexuelle qu'il avait entretenue avec la jeune femme, il s'est toujours défendu d'avoir fait la moindre pression pour l'obtenir, indiquant que c'est elle qui avait fait les premiers pas. Sophie Patterson avait raconté de son côté qu'elle l'avait suivi dans une chambre d'hôtel ou dans un club libertin uniquement pour obtenir gain de cause. Un scénario judiciaire assez classique en fait dans ces affaires où il est difficile de démêler la vérité entre la parole de l'un et celle de l'autre.
Il y a pourtant eu 4 enquêtes depuis la première plainte en 2017, Jean-Philippe.
Oui, la première sera classée sans suite parce que Sophie Patterson ne s'est pas présentée aux convocations. Une deuxième plainte l'année suivante subira le même sort pour absence d'infraction. Puis une troisième plainte débouchera sur un premier non-lieu pour le ministre. Mais là, Sophie Patterson obtiendra la reprise des investigations juste avant l'arrivée de Gérald Darmanin à l'intérieur. Depuis 1 an donc, le ministre a été placé sous le statut de témoin assisté, faute d'indices graves ou concordants pouvant justifier une mise en examen. Il a été confronté à sa plaignante au printemps dernier et la semaine dernière, la juge a donc clos son instruction. C'est maintenant au parquet de Paris de prendre ses réquisitions, puis les avocates de Sophie Patterson pourront tenter d'obtenir des investigations supplémentaires avant que la juge confirme par ordonnance le non-lieu vers lequel elle semble s'acheminer.
Jean-Philippe Degnaud, merci.
Il est 8h07, prière de montrer son certificat avant d'entrer.
Demain, les salariés des hôpitaux et des EHPAD devront avoir reçu au moins une première dose de vaccin pour aller travailler. C'est le cas pour plus de 95% d'entre eux à l'hôpital, selon le gouvernement, qui évalue à 1% le nombre d'irréductibles. Ainsi, dans cet hôpital de Mayenne, à Ernée, l'ensemble du personnel est vacciné, 325 personnes, ce qui n'empêche pas les soignants d'être divisés sur la question, Théo Bauchet.
Jean-Baptiste est kiné et il peut s'occuper l'esprit léger de ses séances. Vacciné depuis le printemps, la date du 15 septembre ne le fait pas frémir.
Pour ma part, pas tellement. Après, certains de mes collègues qui étaient plus perplexes, ça a mis un petit peu de pression sur certains d'entre eux.
Au moment de l'annonce de l'obligation, il restait 30% de personnel à vacciner. Anaïs est infirmière et elle a reçu sa deuxième dose cet été.
Mais pas de gaieté de cœur du tout.
L'obligation ne passe toujours pas et elle entend que certains aillent jusqu'à abandonner leur métier.
C'est des gens qui ont une force de caractère, qui savent pourquoi ils se positionnent dans ce souhait de ne pas se faire vacciner. Donc non, je ne vais pas les encourager ou ne pas les encourager. Ils savent ce qu'ils font. C'est une décision qui est très personnelle de toute façon.
À côté, quand on demande à Véronique, qui a eu le Covid, si elle comprend.
Pas forcément. Non, moi je me dis que c'est quand même pour nous protéger nous et pour protéger aussi les patients en fait.
Céline a d'abord été dubitative, mais aujourd'hui elle espère que les bons chiffres dans son hôpital permettront d'échapper à une vague de Covid.
Plus ça va, plus ça a l'air quand même d'être assez positif pour l'ensemble des personnes vaccinées. Au niveau des hospitalisations, il n'y a quasiment personne. Je ne regrette pas d'avoir fait le choix de me faire vacciner.
À noter que même avec le vaccin contre la grippe, l'hôpital d'Ernée faisait déjà exception avec un très bon taux de vaccination.
Là, l'hôpital où l'épidémie continue son reflux, moins de 10 000 malades hospitalisés. On est revenu au niveau du 15 août. Un prêt immobilier, oui, mais avec des limites. 35% d'endettement pour l'emprunteur et pas plus de 25 ans pour rembourser. Voilà ce qui pourrait devenir la règle dans les banques. Ça n'était pas obligatoire jusqu'à présent, mais le Haut Conseil de stabilité financière veut serrer la vis pour empêcher la surchauffe du secteur, ce qui pourrait donner lieu, Delphine Simon, à beaucoup de refus de prêts.
Les banques jurent qu'elles jouent le jeu et respectent les consignes, mais elles peuvent, à titre de dérogation, accorder 20% de prêts bancaires hors des limites d'endettement. Certaines les dépassent, principalement au bénéfice d'acheteurs jeunes ou de primo-accédants, explique Maëlle Bernier, porte-parole du courtier en ligne Meilleur Taux.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elles ont dérogé, c'est-à-dire dépassé ces fameux critères, pas à hauteur de 20%, mais plutôt à hauteur d'un tiers. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été financés au premier semestre 2021 et que si les banques avaient totalement et parfaitement respecté les règles qu'on leur avait demandé de suivre, il y a des emprunteurs qui n'auraient pas été financés.
Depuis la rentrée, le secteur s'inquiète d'un ralentissement. Si ces consignes deviennent contraignantes, y aura-t-il des sanctions ? Certaines prennent des mesures, comme la mise en place d'une calculette en ligne, explique Maëlle Bernier.
Aujourd'hui, si on applique un principe totalement mathématique, à savoir une barrière à 35%, pile, vous allez avoir des refus de prêts qui vont être automatiques. Et on le voit, on a déjà des banques qui disent « je ne peux pas financer ce dossier-là parce qu'il est un tout petit peu au-dessus du 35%. »
Bercy relativise, signe que ce serrage de vis ne nuit pas au crédit. Selon la Banque de France, en juillet, les crédits Habitat dépassent 20 milliards d'euros. Record.
Delphine Simon, aux États-Unis, encore une alerte à l'ouragan. Cette fois, c'est Nicolas qui se dirige vers les côtes du Texas avec ses pluies et ses vents violents attendus dans quelques heures. En Belgique, c'était il y a 2 mois, des inondations monstres et un bilan dramatique. 38 morts et des milliers de sinistrés. Depuis, les débris emportés par les cours d'eau ont été rassemblés. Et vous avez peut-être vu cette image stupéfiante, cet amoncellement sur des kilomètres d'autoroutes désaffectées, faute de place dans les déchetteries. La route des débris, c'est un reportage d'Angélique Boin.
Pour l'instant, on a fait presque 1 kilomètre.
Nous sommes dans la voiture de Nicolas, l'agent de sécurité qui surveille cette immense décharge à ciel ouvert. 90 000 tonnes de déchets déposées sur 2 des 3 voies de gauche de cette ancienne bretelle d'autoroute. On longe un magma informe d'objets entassés sur 3 à 5 mètres de hauteur.
Et là, c'est absolument interminable.
On a presque 15 kilomètres.
Avec nous, il y a Caroline Charlier de la société SPAC en charge du recyclage.
Ça va d'un matelas, d'un morceau de canapé. Toute la vie, en fait, des gens c'est couvert de boue, fatalement.
Ce tronçon, c'est une zone de stockage.
Tout va être emmené dans les filières de tri. On a quand même un bon espoir d'atteindre au minimum les 60% de valorisation.
Le site a été bien choisi, nous sommes entourés de champs, mais les premières maisons sont tout de même à quelques centaines de mètres. Henri se plaint de l'odeur et des bêtes.
Des renards, des rats, des fouines, il y a toutes les bêtes qui ont besoin de nourriture.
La bourgmestre de la commune voisine, Christine Servas, s'est assurée de son côté qu'il n'y a pas de pollution du sol.
Parce que ce ne sont pas des déchets de matière organique, donc il n'y a pas de jus, si je peux dire ça. Il faut bien que chacun prenne un peu sa part de désagrément.
Les autorités ont prévu 9 mois pour tout évacuer. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
En Norvège, c'est le retour de la gauche au pouvoir. Le travailliste Jonas Gahr Støre remporte les élections législatives et pourra a priori se passer des Verts pour gouverner. Eux qui réclament l'arrêt immédiat des explorations pétrolières dans le pays, plus gros exportateur d'Europe de l'Ouest, là où des travaillistes et leurs alliés souhaitent une sortie douce et progressive de l'économie pétrolière. Et puis quand les cartels de la drogue règlent leurs comptes dans les prisons, ça se passe en Équateur où un pénitencier abritant 2 chefs de gang a été attaqué au drone hier à coups d'explosifs. Des dégâts, mais pas de blessés. Autrefois, on appelait ça un pot de yaourt, une petite voiture facile à garer et qui se faufile dans les rues. Ça colle assez bien avec la petite électrique de Citroën, sortie il y a 1 an, l'AMI. Elle est toute grise, bridée à 45 km/h et accessible dès 14 ans. Elle coûte entre 7 et 8 000 euros ou peut se louer et c'est un succès, pas seulement en ville. Et malgré, Thibault Lefebvre, quelques défauts de conception.
L'AMI est un petit cube aux angles très arrondis qui semble tout droit sorti du dessin animé pour enfants, Cars.
Moi, elle me donne le sourire tous les matins quand je rentre dedans. C'est tout.
Frédéric Mignard n'est plus un enfant, mais à 50 ans, il est depuis 1 an l'heureux propriétaire d'une AMI qui, malgré son charme fou, a par moments quelques soucis sur la route. Frédéric Mignard est au micro de Mélanie Juvet.
Il y a eu des grosses erreurs techniques sur cette voiture. Par exemple, il y a des trous dans les portières, on ne sait pas pourquoi, et on se gèle les cuisses quand on roule l'hiver. L'aérateur, par exemple, qui va sur le pare-brise, il envoie du vent, mais sauf sur le pare-brise. Donc quand il y a de la buée, finalement, ça ne désembue pas. Vous voyez, c'est toutes des petites améliorations sur des choses qui n'ont pas été bien réfléchies au départ.
Et pourtant, l'AMI est pour son constructeur un succès commercial qui séduit bien au-delà de la clientèle visée, et notamment à la campagne. Alain Le Gouguec est le chef de produit AMI.
On ne s'attendait pas forcément à ça. Avec 75 km d'autonomie en électrique, on a largement la distance pour aller soit à son travail, soit aller faire des courses, revenir à la maison. On peut brancher facilement AMI n'importe où avec une prise standard de 120 volts. C'est l'électrique facile et AMI répond à une alternative dans ces zones-là où il n'y a pas forcément de transport en commun, par exemple.
Près de 6500 véhicules ont été vendus en France, dont plus d'un quart en zone rurale.
C'est raté pour les bleus champions olympiques de volley. Ils échouent en 8e de finale de l'Euro, battus par les Tchèques hier soir en 3-7. Enfin, c'est l'événement de la semaine au cinéma d'une nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert. David Lynch s'y était cassé les dents dans les années 80, mais Denis Villeneuve, lui, a réussi le défi. Après 35 ans à mûrir son projet, le résultat est très convaincant, Corinne Pellissier.
À
planet Arrakis is so beautiful when the sun is low.
Cela fait des années qu'il était réputé maudit et inadaptable. Le best-seller de science-fiction le plus vendu au monde a, semble-t-il, trouvé son maître, Denis Villeneuve, fan absolu de Frank Herbert, qui redonne du souffle à l'histoire sans jamais dénaturer l'œuvre initiale du grand spectacle, filmé comme un tableau. Très éloigné du film un peu kitsch de David Lynch ou des effets spéciaux de Star Wars, le nouveau Dune séduit par son style épuré, ses paysages somptueux et la puissance de sa mise en scène, aussi sobre que spectaculaire.
Come with me.
We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray.
Denis Villeneuve n'en fait jamais des tonnes et la dimension environnementale du roman trouve un écho très actuel dans cette intrigue où tout le monde se bat pour le contrôle d'une épice aux vertus mystiques. Les grands espaces, la musique, le casting, tout concourt ici à jeter les bases d'une grande saga très prometteuse sur fond de guerre clanique et de trahison. La planète Arrakis n'a pas fini de nous passionner et Timothée Chalamet, dans le rôle de Paul, est bien le grand leader que les fans attendaient.
Dad, what if I'm not the future of House Atreides?
Et pour mémoire, le Dune de David Lynch dans les années 80, ça donnait ça.
Dune, un voyage spectaculaire à travers les merveilles de l'espace et les mystères du temps. Les limites de l'incroyable.
Ça a extrêmement mal vieilli, c'est vrai, comme la bande-annonce. Et on note la différence entre les bandes-annonces des années 80 et celles d'aujourd'hui. Hein.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé. La mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Marie-Pierre, vigilance, orage et pluie, inondation dans le sud ce matin.
Oui, Nicolas, qui concerne en fait l'Hérault et le Gard, car ces orages sont violents avec grêle, du vent et une forte activité électrique. La dégradation orageuse va stagner sur les Cévennes, alors on attend de forts cumuls de pluie en peu de temps. En fait, cet épisode pluvio-orageux concerne aussi dès ce matin les trois quarts du pays, de la Bretagne aux Hauts-de-France à la Champagne en descendant sur le Massif central. Et ce matin sont épargnées quand même la façade atlantique aux Pyrénées ainsi que les régions de l'Est, des Ardennes à la Corse. Et il fait très doux, 18 à Paris, Quimper, 20 Grenoble et à Brive, 24 aigues mortes en Camargue, contraste avec les 6 à Barcelonnette.
Et puis les orages, Marie-Pierre, vont se décaler tout doucement.
Oui, ces pluies orageuses vont arroser cet après-midi le nord, aux Ardennes et à la Bourgogne, et à la vallée du Rhône jusqu'au Massif central et s'étendront également aux Pyrénées. Dans le golfe du Lion, on attend toujours ces fortes quantités de pluie en peu de temps avec du vent d'autant. Le temps restera perturbé de la Normandie à la Picardie avec un coup de tonnerre possible alors que le ciel deviendra plus lumineux de la Bretagne au Pays Basque. La façade est restera aussi à l'écart sous un ciel voilé, de l'Alsace à la Corse, sous des températures très douces pour la saison. 23 près de la Manche, 25 à Paris, 26 à Nantes, 28 à Strasbourg et Marseille, et 30 à Toulouse ou Perpignan, ce sera le maximum.
Merci Marie-Pierre.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. France Inter, 8h18, géopolitique.